douceur, douleur, ferveur. Tout faire, tout être, tout offrir aux intentions de la Vierge. Ne rien demander pour soi-même, ne rien refuser à Marie, chercher la sainteté en aimant sans retour sur soi-même, mais en donnant et se donnant avec la certitude que Dieu a besoin de nous pour la conversion des incroyants, la paix dans le monde et l'unité de l'Église. Pour prendre au sérieux et accomplir ce qu'elle nous dit par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, héritier de Jean-Jacques Ollier et d'Agnès de Langeac, ce qu'elle nous a dit par Saint Maximilien Marie Kolb, ce qu'elle nous dit aujourd'hui à Medjugorje, comme dans l'intimité du cœur, et de ce qu'elle nous dira encore par ses apôtres. Imitation de la Vierge. Communion qui soit une école d'amour, où la Vierge nous enseigne la voie de l'union à Dieu. Dans cette vocation nuptiale, elle nous conduira, parce qu'elle est petite épouse du Père éternel dans sa pensée depuis toujours, épouse de l'Esprit par l'incarnation du Verbe, épouse de Jésus par le double transpercement au pied de la croix, épouse de la Trinité très sainte qui habite en elle. Elle est le modèle de l'humanité nouvelle à qui il a été prophétisé. Ton Créateur, c'est lui ton époux. Elle est la mère de la miséricorde, la faiblesse de Dieu pour l'humanité, les entrailles maternelles du Père. Elle est l'incarnation de la petite voix dont parle Thérèse, théologienne de notre temps. C'est parce qu'elle est toute petite qu'elle a plu au Très-Haut. Antienne des vêpres de la maternité de la Sainte Vierge. Par son immaculée conception, elle n'a pas quitté la grâce des tout-petits, ceux qui, seuls, entrent dans le royaume. C'est en demeurant en elle, paisiblement, totalement abandonné comme l'enfant sevré sur le sein de sa mère, que nous demeurerons tout petits et que nous serons le plus proche de la Trinité Sainte. À la suite du pauvre d'Assise, nous considérerons la Reine des Cieux comme notre Poverella, la toute petite pauvre, modèle de la pauvreté dans l'esprit, à laquelle est promise la possession du royaume. Sur cette terre, elle sera notre modèle et notre formatrice pour nous préparer au grand combat opposant la femme et le dragon qui veut dévorer l'enfant de son sein, l'Église. Si dans le corps mystique, Marie est le cou par lequel passe le souffle de l'Esprit et les ors de la tête qui est le Christ, Marie dans ses pauvres serviteurs est aussi le talon, comme le dit Grignon de Montfort. Satan mettra des embûches au talon de Marie, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde et abaissés devant tous, foulés et persécutés comme le talon l'est à l'égard des autres membres du corps. Les apôtres des derniers temps ne sont pas, selon l'expression de saint Paul, de supers apôtres, mais des pauvres, des dépouillés par l'Esprit. Consécration et spiritualité du cœur. Nous exhortons tous les fils de l'Église à se consacrer de nouveau, chacun, au cœur immaculé de la Mère de l'Église, à se soumettre toujours davantage à la volonté divine en faisant passer dans leur vie cet acte très noble de piété et enfin à le servir pieusement en fils, conformément aux exemples de leur céleste reine. Paul VI, Signum Manium, 13 mai 1967. Elle est en effet plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. Je me suis efforcé de la voir pour épouser et suis devenu l'amant de sa beauté. Son intimité avec Dieu fait éclater sa noble origine, car le maître de l'univers l'a aimée. Des laïcs consécrateurs du monde selon le sacerdoce de tous les baptisés. Cette fonction indispensable du peuple de Dieu a été précisée dans la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. C'est pourquoi les laïcs consacrés au Christ et oints du Saint-Esprit sont, d'une façon admirable, appelés et équipés pour que l'Esprit produise en eux des fruits toujours plus abondants. Toutes leurs œuvres, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur travail de chaque jour, leur détente et même les peines de la vie, si elles sont supportées avec patience, deviennent des offrandes spirituelles offertes à Dieu par Jésus-Christ, qui, dans la célébration de l'Eucharistie, sont offertes pieusement au Père avec l'offrande du corps du Seigneur. Ainsi, les laïcs agissant saintement partout comme adorateurs consacrent à Dieu le monde lui-même. Eschatologie. Nous reconnaissons que l'heure est venue d'un autre Cana, d'un temps de noces où la mère de l'Église, qui est l'épouse, nous invite à boire le vin qui avait été réservé pour la fin, une effusion nouvelle de l'Esprit-Saint. Le rôle de notre mère pour les derniers temps, préparé par les dogmes de l'Assomption et de l'Immaculée Conception, est sans précédent. C'est pourquoi nous chercherons à découvrir et à mettre en pratique les moyens de salut que la médiatrice de toutes les grâces nous propose. Ce renouveau de l'activité de la Vierge lié au second avènement du Christ, le pape le plus marial de l'histoire l'annonce en ces termes. Si donc les années qui nous séparent de la conclusion du deuxième millénaire après le Christ et du commencement du troisième millénaire peuvent être rapprochées de cette antique attente historique du Sauveur, il devient pleinement compréhensible que nous désirions nous tourner spécialement en cette période vers celle qui, dans la nuit où était attendu l'avènement, commença à resplendir comme une véritable étoile du matin, Stella Matutina. En effet, comme cette étoile, en même temps que l'aurore, précède le lever du soleil, de même Marie, dès sa conception immaculée, a précédé la venue du Sauveur, le lever du soleil de justice, dans l'histoire du genre humain. Jean-Paul II, Redemptoris Mater. L'intuition du Saint-Père ne fait-elle pas écho à la voix de Grignon de Montfort? Ses prophéties sur les derniers temps commencent à prendre une actualité surprenante. C'est par Marie que le salut du monde a commencé et c'est par Marie qu'il doit être consumé. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ses derniers temps. Parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et évangélistes, qu'elle ne fût point manifestée. Parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être glorifié, et louée sur la terre par les vivants. Comme elle est l'aurore qui précède et découvre le soleil de justice qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue afin que Jésus-Christ le soit. Étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement, C'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent le trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force, en grâce dans ces derniers temps. Marie, fille de Sion, résume dans sa personne tout Israël, peuple mis à part, consacré à Dieu et destiné à épouser son Créateur. Elle est la terre promise en qui se béniront toutes les nations de la terre. La fille de David, la mère du rejeton de Jessé, se lève pour consoler Rachel qui pleure ses enfants et pour gémir avec l'esprit « Maranatha, viens, Seigneur Jésus ». C'est elle qui réconciliera son fils premier-né avec le fils cadet. Nous serons son cœur et ses lèvres pour chanter « Il a porté secours à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais, et accueillir nos frères juifs. » La Gospa, selon les voyants de Medjugorje, prie parfois dans sa langue maternelle. Nous prierons pour l'illumination d'Israël, sachant que ce mystère, comme nous l'enseigne saint Paul, est au cœur du mystère de l'Église. Le mot d'ordre, douceur, douleur, ferveur, reçu au Chrysovaque, douceur. Douceur, béatitude et doux, car la terre nouvelle où coule le lait des consolations et le miel du plus tendre des amours, le paradis restauré qui est le sein de la Vierge, la terre promise leur appartient comme gage et art de la béatitude éternelle. Douceur, une relation unique, privilégiée, une consolation ineffable produite par Dieu. Vous serez allaité, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux, comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolé. À Jérusalem, Marie a connu la plus grande désolation qu'une créature puisse connaître. Or, la désolation a abondé en elle pour que la consolation déborde en nous. De cette intimité avec elle, nous vivrons comme d'un secret qui nous ouvre l'union à la Trinité très sainte, chaque jour et chaque nuit, et à chaque instant du jour et de la nuit. Douceur, se laisser à Marie, épouse de l'Esprit, et saint où nous renaissons d'en haut, se laisser conformer dans l'abandon d'une oraison contemplative à l'image parfaite du Christ premier-né d'une multitude de frères. Se laisser à la mère de la miséricorde, abîme de pureté, aspirée par l'abîme du cœur humain et de ses offenses à l'amour. Nous verrons dans les plus pauvres, les moins aimables aux yeux des hommes, l'objet de la prédilection de Dieu. Avec Marie, notre cœur les cherchera comme la fiancée cherche son fiancé. Douceur, voici qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble en frère. Le règne du cœur ne peut venir que par l'union des cœurs. La Sainte Vierge veut dans ces temps reproduire d'une manière plus parfaite encore le miracle de la communauté primitive en unissant les cœurs de ces tout-petits, comme son cœur immaculé est uni au cœur de Jésus, dans la douceur, la douleur et la ferveur. Douleur. Marie nous enseigne le sens du sacrifice véritable. Par son cœur immaculé, nous avons accès au cœur transpercé de Jésus. L'amour envers l'Immaculé ne consiste pas seulement dans un acte de consécration, même récité avec une grande ferveur, mais dans le fait de beaucoup souffrir de privation et de travailler pour elle sans arrêt. Saint Maximilien Marie Kolb. Douleur. Comme le dira Thérèse, déposition de Sœur Marie de la Trinité, s'offrir en victime à l'amour, c'est s'offrir à la souffrance, car l'amour ne vit que de sacrifice, et quand on s'est livré totalement à l'amour, il faut s'attendre à être sacrifié sans réserve. Qu'on ne se trompe pas sur l'apparente monotonie du sacrifice. Elle consiste en une ardeur qui consume tout lentement et qui est la consommation de l'amour sur la terre, le seul bonheur véritable, la joie que nous enseigne celle qui est à la fois la joie de toutes les joies et la mère des douleurs. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice s'il n'est pas celui de l'amour à l'amour. Le seul sacrifice est celui de Jésus, lui qui, entrant dans le monde, a dit « Tu m'as fait un corps, alors j'ai dit me voici. » Marie, unie de manière particulière au sacerdoce du Christ, a elle aussi dit « Me voici » et a offert son corps, son cœur et son esprit pour être l'autel et la victime. La première, elle a pu s'unir à l'unique sacrifice eucharistique en disant de celui qui a pris chair de sa chair, « Celui-ci est ma chair, celui-ci est mon sang. » Marie nous enseigne par sa vie le sens du sacrifice jusqu'à la mort d'amour. Elle répond aux 5 conditions exigées par la loi de Moïse pour faire un sacrifice parfait. Sanctification et consécration de la victime par sa conception immaculée, oblation de la victime par son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Immolation et oscision, un glaive te transpercera le cœur. L'inflammation et la consomption par sa mort d'amour et son assomption. La communion, Jésus lui-même nous la donne en communion. Voici ta mère. Son cœur immaculé, uni au cœur de Jésus, est offert à tous les membres du corps mystique. Comme le dit sainte Thérèse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Elle nous apprend à devenir fils de Dieu dans la sanctification et l'oblation, à aimer divinement, c'est-à-dire en s'offrant totalement, en lui sacrifiant tout. C'est pourquoi Grégoire de Nice a pu dire « L'Eucharistie est le mystère de la Vierge, Marie » étant le sujet principal pour lequel la puissance divine a fait de si grandes choses en ce mystère. Marie, notre mère des larmes, rose au milieu des épines, nous donne la contrition du cœur, la tristesse qui conduit à la repentance. Elle se découvre à nous au travers d'un chemin de douleur, la reine de la réconciliation et notre consolatrice. Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux de la noirceur de ta conscience, terrorisé à la pensée du jugement de Dieu, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme de la désespérance. Pense à Marie, invoque Marie. Incité par Marie, nous recourons au sacrement de la réconciliation. Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour cela, il faut croire, prier, jeûner et se confesser. C'est en effet par sa pénitence, par son sang, par sa mort que Jésus-Christ doit engendrer des enfants à Dieu. Et comme le propre du mariage est de mettre les époux en union parfaite de sentiments et de dispositions, pour toute dot, pour tout partage, c'est la douleur que Marie reçoit de son époux qui lui est donnée sur le calvaire, comme l'homme de douleur, comme l'époux de sang. Jean-Jacques Ollier, Vie intérieure de la Vierge Marie. Compassion envers Marie. À Bethléem, elle ne sentit aucun effet de l'arrêt porté contre les mères des pécheurs. les douleurs de l'enfantement, étant mère du juste. Mais sur le calvaire où elle est faite la mère des pécheurs, la mère des criminels, elle enfante dans la douleur et dans les angoisses, en devenant la mère de Saint Jean, le premier-né de l'adoption, figure et symbole de tous les enfants de l'Église. L'épouse partage les sentiments de l'époux. À la croix, Marie ressent les mêmes douleurs que son fils, et quiconque unit son cœur au cœur de Marie ressent ces mêmes douleurs de rédemption. Saint Alphonse de Ligorie cite cette parole de Jésus à Véronique de Binasco. Ma fille, elles me sont bien chères les larmes que l'on verse sur mes souffrances, mais à cause de l'immense amour que je porte à ma mère, la méditation du martyre qu'elle endura au pied de la croix m'est plus chère encore. La fin du martyre sanglant dans l'Église a conduit les hommes assoiffés de voir Dieu à vivre une autre forme de martyre dans la vie monastique. La mort d'amour, le martyre du cœur dont Marie nous a donné l'exemple. Une chasteté, une pauvreté, une obéissance dans la vie familiale de Nazareth, comme dans sa retraite à Éphèse. Tous, laïcs, mariés ou non, sommes appelés à vivre la chasteté du cœur de la Vierge. Chasteté que le père Molinier décrit admirablement dans un de ses cahiers sur la vie spirituelle. Dans une nature intègre, et spécialement dans Marie, la vie sexuelle est donc prise en charge immédiatement par la grâce, par le feu de la charité qui la consume et la cautérise. Cet investissement est ressenti à la fois comme un épanouissement excessif et une sorte de mort, une mort par excès de vie, si j'ose dire, autrement dit, un dépassement, une métamorphose, un holocauste. Cet holocauste trouvera son achèvement au pied de la croix. Il commence en fait à l'Immaculée Conception. Il devient conscient à mesure que s'éveille le psychisme de Marie. Ce n'est pas encore un fonctionnement glorieux de la sensibilité sexuelle. C'est pourtant un fonctionnement ou un exercice ou un épanouissement parfaitement chaste et sans conflit. Et non pas une absence d'exercice ou de fonctionnement. Ce n'est pas un enfouissement ou un refoulement des forces sexuelles elles-mêmes. C'est un renoncement perpétuel à leur épanouissement de monde humain, au profit de leur épanouissement surnaturel. Déchirant, mais béatifiant. L'holocauste que l'Esprit propose constamment à Marie. En cela consiste la chasteté. On en peut la définir en général comme un épanouissement de la vie sexuelle qui reste transparent à l'égard de l'infini ou de souverains biens. La chasteté peut être naturelle, simple, oblation à Dieu de toute la vie sexuelle ou surnaturelle.